Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Deux semaines de violence, la jeunesse corse réclame l'autonomie, voire l'indépendance. Question, pourquoi ce regain de nationalisme et jusqu'où ira-t-il? L'Info C'est Clair est intitulé Corse, la violence et l'autonomie. Nos invités, Cyril Graziani, vous êtes chef du service politique de France Télévisions. Bonjour. Fabrice Dalméda, historien, vice-président de l'université Panthéon-Assas, auteur du podcast Les grandes manipulations de l'histoire et dans la tête de Vladimir Poutine, c'est disponible sur l'application Magellan. Et enfin, Jacques Folloroux, vous êtes journaliste d'investigation au Monde, auteur de Mafia Corse, une île sous influence, à paraître au mois de juin chez Robert Laffont. Merci de participer à cette émission en direct. Bonjour. Donc Gérald Darmanin est actuellement en Corse pour tenter d'apaiser la situation après deux semaines de violence et ce suite à l'agression d'Ivan Colonna en prison. Ivan Colonna qui est devenu un symbole de patriotisme pour une partie de la jeunesse corse. Sujet d'Audrey Richier et Raymond Chaplard.
Bientôt deux semaines que ces étudiants bloquent l'accès à l'université de Corte. C'est ici qu'est née la révolte. Le déclencheur, l'agression d'Ivan Colonna en prison. Même s'ils étaient encore très jeunes lorsque le militant nationaliste a été condamné à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac.
Mais pour nous, ça a toujours été un symbole. Nos parents nous ont toujours parlé.
Symbole de quoi ?
Un patriote.
Un patriote corse.
Et les revendications de ces étudiants corses vont plus loin. Cette future professeure des écoles milite pour l'autonomie de l'île, voire l'indépendance.
Pour ma part, je ne me sens pas française. D'autres Corses se sentiront également français, mais il y a toujours une double identité et il faut maintenant la reconnaître, cette double identité.
Alors voilà une semaine que la Corse s'embrase. Un tribunal incendié, un centre des impôts détruit, des forces de l'ordre prises pour cible. Le gouvernement vient finalement d'ouvrir la porte au retour en Corse de deux autres prisonniers, membres du commando Erignac.
Cette violence a permis des avancées. On a obtenu plus d'avancées en 7 jours de violence et de mobilisation qu'en 7 ans d'exercice du pouvoir par les nationalistes.
Une violence que les militants nationalistes plus anciens tentent malgré tout de canaliser, comme jeudi dernier à Ajaccio, où ils se sont interposés entre les jeunes et les policiers.
Comme tout parent, sinon on ne serait pas parent responsable, on est inquiet. On est inquiet de ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on s'est mis devant. C'est pour ça qu'on est intervenu à un moment donné, mais également, on comprend également cette révolte.
Mais toute la population corse n'est pas aussi compréhensive.
Ils sont en colère vis-à-vis de ce que s'est passé pour Colonna. Je suis d'accord, mais là, ils ont été un peu trop loin.
Que font les parents? Parce que bon, il va y avoir un drame ces jours. Hein.
Leur message, leur cause, vous la comprenez pas?
Absolument pas.
Alors comment apaiser la colère de ces jeunes? Même cet élu nationaliste semble préoccupé.
Ce qui pourra construire une solution politique, c'est bien la représentation élue qui aujourd'hui a la légitimité du suffrage universel.
Et la jeunesse l'entend, ça?
Comme toutes les jeunesses, elle a toujours été un peu révolutionnaire, probablement.
Alors, Cyril Graziani, ça c'est le conflit qu'on n'avait pas vu venir. Pourquoi subitement cette poussée nationaliste, notamment chez les jeunes d'ailleurs?
Ça couvait depuis un certain temps et ils cherchaient justement l'étincelle qui pouvait les faire sortir dans la rue. Et c'est vrai qu'on a entendu ce qui s'est passé avec Ivan Colonna dans la prison quand il a été victime d'une tentative d'assassinat. C'est pas, vous parliez d'agression, c'est une tentative d'assassinat. Ça, c'était le prétexte, l'excuse pour justement réussir à trouver cet argument qui pouvait leur permettre de faire entendre cette voix violente, limite insurrectionnelle, puisqu'on l'a vu depuis quelques jours. Des émeutes, un centre des finances qui est incendié, ils sont rentrés dans le tribunal d'Ajaccio. Et ce qui est intéressant aussi à analyser, c'est que les nationalistes au pouvoir sont là depuis 2015. Donc ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir, ça fait 7 ans qu'ils réclament notamment l'autonomie, mais on reviendra après sur les autres revendications. Et là, en à peine 7 jours, ils ont réussi, les jeunes, les émeutiers, à obtenir ce que les nationalistes, par les urnes, n'ont pas réussi à obtenir.
Jacques Folloroux, il y a un côté un peu anachronique à voir cette jeunesse. Je ne sais pas, la jeunesse, on la caricature volontiers comme étant globalisée, comme voulant partir pour faire ses études ailleurs, etc. Un petit peu comme Napoléon, de cette comparaison. Là, on a une jeunesse très... qui est très nationaliste, pardonnez-moi, mais ça peut paraître à l'ancienne, on a envie de dire, qui se referme sur son île. Quels sont les ressorts de cette poussée que, ça paraît bizarre de les entendre dire ça.
Ça me fait penser un peu
aux révoltes étudiantes récurrentes qu'on a pu connaître sur le continent. Moi, je trouve qu'il y a une forme. En effet, il y a une étincelle qui est l'agression en prison contre Ivan Colonna. Mais je trouve que le fait politique qui surgit derrière, c'est quand même une espèce de retour de bâton contre le pouvoir nationaliste. Parce qu'en effet, comme l'a rappelé mon confrère, je veux dire, depuis 2015, le pouvoir économique et politique de l'île est entre les mains des autonomistes et des nationalistes. Et depuis 2021, entre les seules mains des autonomistes. Et finalement, tout d'un coup, ils sont contestés. D'ailleurs,
par plus extrême que...
Peut-être plus, enfin, d'ailleurs davantage que l'État lui-même, par cette jeunesse qui revendique, qui a une soif d'absolu, qui a une soif d'idéal, etc. Et qui peut reprendre aussi, en effet, à son compte, une revendication identitaire, culturelle, politique. Je pense que ça existe, en dépit de la jeunesse de ces jeunes, qui, comme l'a rappelé votre reportage, était pas né lorsque Ivan Colonna a tué le préfet Erignac.
Alors justement, Fabrice Dalméda, témoignage ce matin d'un proche du pouvoir dans Le Parisien qui dit « Le jour où Ivan Colonna meurt, Ivan Colonna devient un martyr ».
Il est déjà devenu.
C'est incroyable parce que Ivan Colonna, c'est quand même l'assassin d'un préfet, d'un représentant de l'État. Mmh. Quand on fait de quelqu'un qui assassine un représentant de l'État un héros, ça veut dire qu'on estime que l'État n'est plus légitime. Ça fait de la France, ça fait de ce préfet un occupant. Qu'est-ce qu'il faut décrypter derrière le fait que Ivan Colonna soit devenu un héros en Corse pour une partie de la jeunesse?
Non, mais ça manifeste le fait que la Corse, en tout cas une partie des Corses, ne se considère pas comme la métropole.
Qui a dit « moi, je ne me sens pas française ».
Ben oui, mais il faut avoir présent à l'esprit cette idée-là que depuis, nous, à chaque fois qu'on regarde notre carte de France, il y a la Corse à côté et ça, c'est la métropole. Et après, il y a des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales d'outre-mer. Et pour nous, la Corse, c'est la France. Vous vous souvenez, en faisant une comparaison, n'est pas raison, je veux bien, mais rappelez-vous le même discours que celui que nous avions sur l'Algérie, à l'époque où il y avait les trois départements algériens, et on disait, François Mitterrand, 1956, de Dunkerque, 1954, de Dunkerque à Tamanrasset, il n'y a qu'un droit, qu'une loi. On dit la même chose pour la Corse. En gros, de Dunkerque à Ajaccio, il n'y a qu'un droit, qu'une loi. C'est comme ça qu'on raisonne. Or, eux ne raisonnent pas comme ça. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, ils l'ont dit, leur comparaison, ce sont les Outre-mer. Ils sont un peuple d'outre-mer. Ils ne sont pas la métropole. C'est comme ça, en tout cas, qu'une partie des nationalistes, des indépendantistes et des autonomistes se considèrent. Ils considèrent qu'ils ont des spécificités telles que la comparaison n'est pas à mener avec, la Bourgogne-Franche-Comté, mais elle est à mener, par exemple, Gilles Simoni le disait d'ailleurs ce matin, elle est à mener avec la Polynésie française, qui a une certaine forme d'autonomie territoriale.
Gérald Darmanin, d'ailleurs, dans l'interview, on en a parlé.
Ouais. Elle est à mener avec la Nouvelle-Calédonie, pareil, avec autodétermination. Je dis ça parce que depuis les années 70, on l'a oublié, les nationalistes corses ont été en contact avec les nationalistes et les indépendantistes des Outre-mer. Ils ont rencontré les Néo-Calédoniens. En 84, il y a même eu un congrès où il y avait les autonomistes guyanais, guadeloupéens, martiniquais et corses qui se sont rencontrés pour discuter de leurs problèmes.
Cyril Graziani, dans le reportage, revient sur cette jeune fille qui dit « moi, je ne me sens pas française ». Est-ce que c'est du folklore ou est-ce que vous, qui êtes d'origine corse, ce sont des choses que vous entendiez quand vous étiez petit, que vous continuez d'entendre? Ce sont des Corses qui, au fond d'eux-mêmes, ne se sentent pas français, ce que décrivait à l'instant Fabrice Dalméda.
Non, moi j'ai la sensation qu'il y a eu une bascule où il y avait une identité corse qui a toujours existé, mais qui était fondamentalement ancrée dans la République française. Et là, depuis quelques années, il y a une forme de repli identitaire pour lequel on n'a pas encore réussi trop à analyser le pourquoi, avec une jeunesse qui s'est effectivement recroquevillée sur elle-même et qui reprend un petit peu les combats des grands-parents de l'époque, mais des combats qui étaient quand même assez minoritaires dans une île où la volonté d'indépendance n'a jamais été la plus forte et la plus flagrante. On caricature souvent, où on entend cette jeune fille qui dit qu'elle ne se sent pas française, ce n'est pas la majorité des Corses. La majorité des Corses, c'est aussi ce qu'elle doit à la France. Et si demain la France n'était plus présente, la Corse serait un territoire du tiers-monde.
Jacques Follereau.
Oui, dans deux paradoxes. Le premier, sur la question que vous avez posée à M. Almeida, c'est-à-dire sur le symbole Colonna. Ouais. Je voudrais juste rentrer un peu dans le détail, parce qu'il est important. C'est-à-dire qu'on voit aussi...
Il y en a qui a tué un préfet en 1998.
98, c'est ça. Donc là,
qui a battu de sang-froid, une balle dans le dos, dans la nuque, quand même.
Ce que je veux dire, c'est que, donc, en effet, comme vous le dites, aujourd'hui, on regarde des événements qui se déroulent en Corse depuis une semaine, on peut avoir le sentiment que Colonna peut devenir, comme vous l'avez dit, soit un héros, un martyr, etc. Mais à l'époque, ce qui est intéressant de garder à l'esprit, c'est que Colonna... Il est ce qu'il représente, il est rejeté par le mouvement nationaliste. Il est soutenu par les autonomistes, mouvement auquel appartenait Gilles Simeoni à l'époque, avocat autonomiste. Mais à l'époque, pour les nationalistes, c'est quelqu'un qui n'assume pas son acte, parce que l'ensemble de ses complices et des membres du commando Irignac reconnaissent l'acte comme un acte politique. Nous ne sommes pas des voyous, nous assumons politiquement cet acte-là au nom d'une cause politique majeure, noble, mais nous ne rentrerons pas dans le détail de qui a fait quoi. En revanche, Colonna, lui, quand il est arrêté, avant même, quand il est en cavale, et après, quand il est arrêté, nie toute participation. Et donc, c'est considéré par les nationalistes comme une défense de voyous. Je ne parle pas que de droit, là. Je vous dis juste qu'en termes de symbole, les nationalistes corses ne se sont jamais reconnus. Et ils ont même rejeté l'image Colonna. Et aujourd'hui, on voit bien que, de certaine manière, c'est le deuxième paradoxe, c'est-à-dire que sur la question identitaire, c'est aujourd'hui, la question que vous posez, c'est de dire, mais que veulent les Corses? Est-ce qu'ils veulent davantage de reconnaissance spécifique, etc., politique, institutionnelle? Ça fait quand même 7 ans. Je veux dire, moi, ça envoie un message lourd et fort à Gilles Simeoni et aux autonomistes qui sont au pouvoir.
Depuis 7 ans. Oui.
Parce que ça fait 7 ans que finalement la majorité politique de l'île a voté en faveur d'autonomistes et de nationalistes. Depuis 2021, c'est 100% autonomistes. Et il y aurait donc une partie de la population qui ne se reconnaîtrait pas là-dedans. Donc il y a un vrai droit d'inventaire et il y a un vrai retour de bâton sur la gestion autonomiste de la Corse.
Alors, en tous les cas, le gouvernement a reculé sur deux fronts. Un, il accepte que Ivan Colonna soit transféré en Corse, ce qui était une revendication. Et puis deux, il accepte, Gérald Darmanin a pour mandat de parler, suite à ces violences, de parler d'autonomie, ce qui, pour l'instant, n'était pas à l'agenda. Donc le gouvernement en question, le gouvernement recule-t-il et ne recule-t-il que lorsqu'il y a des violences? Eh bien écoutez, c'est le constat que font certains Corses. Je propose d'écouter ces Corses interrogés à Ajaccio et ailleurs.
Vous savez très bien que sans la violence, on n'arrive à rien.
Donc elle a payé?
Grâce aux jeunes, je pense.
Est-ce que leur violence n'a pas payé quelque part?
Oui, quelque part, on peut se dire que oui, puisqu'aujourd'hui, le ministre est là et il nous écoute.
Il faut arrêter de dire que la violence permet d'obtenir des choses. On n'aura que le chaos, on n'aura que des problèmes.
À un mois de l'élection, Cyril Graziani, on peut accuser Emmanuel Macron de ne reculer, de céder face à la violence. On va lui poser la question cet après-midi. Je fais une petite parenthèse politique. Cet après-midi, à sa grande conférence de presse avec tous les journalistes, on va lui parler de la Corse et on va lui dire vous reculez face à la violence.
Certainement, et nos confrères de France 3 Corse attendent ça avec impatience parce qu'ils veulent vraiment que la question soit posée. Parce que, effectivement, Emmanuel Macron, jusqu'à présent, avait toujours refusé d'accéder à cette demande d'autonomie des Corses. Là, à un mois de la présidentielle, évidemment, il ressort cet argument pour essayer de calmer les tensions. Et c'est vrai que ça apparaît comme une volonté d'apaiser, mais une volonté aussi électoraliste pour éviter que derrière, ça ne s'enflamme et que ça puisse perturber sa campagne présidentielle. Parce que si d'un seul coup... Vous savez, s'il n'y avait pas le conflit en Ukraine, je pense que le dossier Corse serait à la une de tous les journaux aujourd'hui depuis 15 jours. Évidemment, il y a eu un début d'insurrection dans un territoire de la République. Donc on en parlerait beaucoup plus qu'on en parle. On en parle là maintenant, mais on en parlerait encore plus parce qu'on serait, il y aurait un focus sur cette question corse. Et lui, le président de la République, ne veut absolument pas que ça vienne polluer sa campagne présidentielle.
Jacques Folloroux, il y a une certaine incompréhension parfois du côté du continent sur ces revendications indépendantistes. Cyril Graziani, je reprends vos propos. S'il devenait indépendant, ce serait le tiers-monde. Hein, je crois que vous avez...
Oui, parce parce qu'il n'y a pas d'économie.
Sondage ce matin, 35% des Français sont favorables à l'indépendance de la Corse. Et on se souvient de Raymond Barre qui avait dit « Si les Corses veulent leur indépendance, qu'ils la prennent ». Sur le continent, on ressent comme un agacement à l'égard de ces velléités indépendantistes comme des enfants gâtés qui veulent partir de chez papa-maman, alors qu'ils ont la plus belle chambre et qu'on leur...
Non, mais comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'immense majorité des Corses et le vote en faveur de Gilles Simeoni est une preuve dans les urnes, n'est absolument pas favorable à l'indépendance. Je veux dire, il a toujours existé une revendication indépendantiste, mais ça n'a jamais été un fait majoritaire en Corse. Après, l'usage de la violence, il est à la fois totalement désordonné et en même temps assez maîtrisé. C'est-à-dire que on est en Corse depuis que le nationalisme corse existe. C'est de la violence, mais sur une doctrine du harcèlement. C'est-à-dire que ça n'a jamais basculé version basque ou version nord-irlandaise. D'ailleurs, je voudrais rappeler que les réunions annuelles des nationalistes associent également les Basques et les Irlandais.
Fabrice Dalméda, les Français s'intéressent, comprennent d'ailleurs ces revendications corses. On est en pleine guerre en Ukraine, on voit un peuple se faire massacrer par Vladimir Poutine. Et voilà qu'on a des enfants, voilà qu'on voit à peu près les mêmes images, enfin pas les mêmes images, mais qu'on voit des images de violence sur le territoire de la République qui s'invitent dans l'actualité. On ne comprend pas tellement, quoi.
Mais je crois que ça a évolué. Il y a une histoire, j'allais dire, du rapport des Français à la Corse. Il y avait un attachement très, très fort. Enfin, il faut le rappeler, on l'a dit, jusqu'aux années 60, pour les Français, le lien à la Corse, il était, j'allais dire, presque une définition du patriotisme. Il y avait l'admiration pour Napoléon, il y avait l'admiration pour les martyrs de la Seconde Guerre mondiale. Je pense à Fred Scamaroni, par exemple, qui était un des agents du BCRA qui est mort torturé en Corse. Et tout ça, c'était des gens dont on se disait, ben voilà, la Corse, première fraction du territoire national libéré pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça faisait que les Français pensaient la Corse comme vraiment chez eux, comme on pense la Bretagne, comme on pense le Berry, en caricaturant à peine. Et je crois qu'il y a quelque chose qui change dans les années après, l'après 68, dans les années 70-80, où quand il y a des revendications, pour le coup, indépendantistes, particularistes, elles sont entendues de manière beaucoup plus favorable. Et pour le coup, je compare à nouveau. Je compare aux Bretons, qui eux aussi ont un mouvement régionaliste fort, qui revient dans les années 70. Je compare aux Provençaux, même chose. Et je compare à la Guadeloupe, à la Martinique, où on a des mouvements de revendication qui apparaissent. Et à partir de ce moment-là, une petite fraction de la gauche, notamment, considère qu'il y a des formes de légitimité là-dedans. Et ce n'est pas pour rien qu'en 81, il y a la création de l'université de Corte. L'université de Corte, c'est quoi? C'était la vieille revendication des nationalistes que Pascal Paoli avait créée en 1765, qui avait été fermée par la monarchie en 1769. Elle est recréée par la gauche. La gauche qui, en 1981, gracie les prisonniers politiques, met fin à la Cour de sûreté de l'État, qui condamnait les terroristes. Donc vous voyez, il y a une évolution. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore un pas supplémentaire d'évolution. C'est-à-dire qu'on comprend cette revendication identitaire à la lueur de la mondialisation. Et où on voit que, ben oui, le nationalisme, c'est un peu la protection des identités menacées par, je caricature un peu, mais menacées par l'étranger ou par la domination d'un État qui serait omniprésent. Et donc, une partie des Français se disent, ben oui, c'est légitime, les Corses y réclament ça, on peut les comprendre, voilà. Je crois que c'est à ça que ça correspond, les 35%. C'est pas un mouvement de gens qui disent, on déteste la Corse, pas ça la question. Mais c'est juste, on se dit, ben tiens, d'ailleurs, juste petite parenthèse, comparaison qu'on n'a pas faite, mais qui est quand même intéressante. Pendant très longtemps, il n'y avait pas de Front National en Corse. Parce qu'il y avait les nationalistes. Le Front National était la même revendication identitaire portée sur le continent que ce que les nationalistes pouvaient porter comme défense du peuple corse sur leur région. Donc vous voyez qu'il y a quand même... Maintenant, d'ailleurs, le Front National s'est implanté, donc l'analyse demanderait à être affinée.
Sauf que logiquement, quand il y avait des élections nationales où il n'y avait pas de représentants nationalistes, là, le Front National faisait des scores très, très élevés. Mmh. À la présidentielle de 2017, Marine Le Pen est arrivée en tête dans de nombreuses villes.
C'est le même ressort, c'est le défense d'un art de vivre qu'on sent menacé, alors peut-être soit par les continentaux ou soit par la globalisation. Le Corse est nationaliste où il vote Le Pen en disant... Je veux garder la Corse telle que je l'ai vécue quand j'étais petit.
Oui, il y a cette forme-là. Il y a cette forme-là ce que je disais tout à l'heure, une forme de repli aussi sur soi.
Alors, en tous les cas, Gérald Darmanin est en Corse en ce moment avec le mandat, et il dit que ça n'a jamais été fait dans l'histoire, avec le mandat de parler d'autonomie de la Corse. On écoute le ministre de l'Intérieur, c'était hier en Corse.
Le président de la République m'a chargé pour la première fois dans l'histoire, je crois, du gouvernement de la Ve République, et c'est le ministre de l'Intérieur qui le dit, d'avancer vers l'autonomie. C'est moi qui ai dit le mot, et il faut définir maintenant ce qu'est cette autonomie. Ça peut être un statut à la polynésienne, comme il existe dans la Constitution, ça peut être un statut sui generis, différent, et pour ça il faudra changer un certain nombre de règles. Ce sera au président de la République de le décider. Nous devons le décider ensemble, donner plus de force aux politiques économiques, sociales, culturelles en Corse. Nous sommes prêts pour ça et j'ai proposé au président Simeone que d'ici la fin de l'année, nous nous mettions d'accord sur cela.
Alors Cyril Graziani, ça veut dire quoi plus d'autonomie pour la Corse ou une Corse autonome? Ça ne veut pas dire une Corse indépendante. Hein. Ce n'est pas la même chose, hein.
Autonomie, ah non, ça n'est pas la même chose.
Et indépendance.
C'est, d'ailleurs, il a pris la comparaison avec la forme polynésienne. La Polynésie a un statut...
Nouvelle-Calédonie.
La Polynésie, oui. Parce que la Nouvelle-Calédonie a un statut de... autonome qui est aussi différent. La Polynésie, c'est...
Preuve que c'est compliqué ces choses-là parce que...
Preuve que c'est compliqué qu'on peut tout, mettre dedans. Ouais. La Polynésie, c'est évidemment tout ce qui relève du régalien, justice, police, sécurité, reste dans l'État. En revanche, la Polynésie, en matière économique et sociale, enseignement, santé, équipement, là, a la possibilité d'édicter ses propres règles. Et c'est ce que veulent les Corses. D'ailleurs, les Corses, Gilles Simeoni, quand vous lui parlez d'autonomie, il parle de lutte contre la spéculation immobilière, de fiscalité. Mais fiscalité, ça signifie quoi? C'est-à-dire lever l'impôt. Mais quel impôt?
D'accord. Dès qu'on rentre dans le détail, il y a quoi? Il y a cette idée, Jacques Folleroux, qu'au fond, les Corses seraient mieux gérés que les continentaux, ou depuis Paris? Je sais pas, des choses aussi stupides que la gestion des déchets ou.
Vous avez posé la bonne question, c'est-à-dire autonomie, mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait de leurs compétences qui sont déjà très élargies? Ouais. Aujourd'hui, la Corse bénéficie d'un statut qui est tout à fait dérogatoire au droit commun. Politiquement, ils sont déjà quasiment, j'ai envie de dire, institutionnellement, ils sont déjà quasiment indépendants. Je veux dire, ils ont une structure qui est tout à fait hors du commun. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, c'est la seule région de c'est le seul territoire français où vous n'avez plus de conseils généraux. Vous avez une collectivité territoriale de Corse qui concentre aujourd'hui tous les pouvoirs. Ils ont même d'ailleurs intégré, voté l'intégration des deux chambres de commerce et d'industrie qui avaient été fusionnées au sein de la collectivité. Et donc vous avez une seule assemblée, un seul pouvoir exécutif. Et depuis 2015, les grands dossiers qui sont d'ores et déjà entre leurs mains, avant même qu'il y ait une autonomie spécifique. Les déchets, ça n'est toujours pas réglé. C'est-à-dire que l'ensemble des déchets, l'immense majorité
des déchets, parce qu'on sait que c'est très mal géré en Corse,
c'est
qu'il y a.
Non, mais attendez, c'est plus que ça. C'est un gouffre sans fond.
Les déchets sont
envoyés sur le continent.
Sur le continent.
Les trois grands dossiers majeurs qui concernent la vie des Corses, parce que là, on parle tous les quatre de la Corse, mais les premières victimes de tout cela, des problèmes de gestion et de violence, ce sont les Corses qui le subissent. Les deux autres gros dossiers, c'est l'eau. L'eau n'a toujours pas été réglée comme problème. Il y a un tas de petites communes qui ne sont pas raccordées. Et puis enfin, les transports. C'est-à-dire que dans un an, à la fois tout ce qui est bateau, tout ce qui est maritime et aérien, ça va être confronté à un vrai problème de réglementation et de fonctionnement. Donc ça pose cette question-là. Et puis il y a un dernier élément qui n'est pas évoqué, mais qui me semble directement relié à votre question sur l'autonomie. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi faire? C'est la question...
Est-ce que je peux poser la question tabou? Est-ce que c'est l'autonomie pour laisser place à la... Je dis ça parce que ce n'est pas une spécificité corse, mais on sait que dans la gestion des poubelles à La Ciotat ou en PACA, il y avait une question de mafia.
C'est ce que j'allais dire.
Ah bah, bon, alors allons-y. est-ce que...
J'allais parler de
si
ça.
Si l'État se retire, la nature ayant horreur du vide, d'autres prendront les marchés et d'autres qui?
Écoutez, moi, ça fait 20 ans que je travaille justement sur l'existence de ce pouvoir parallèle qui fait concurrence à celui de l'État et qui est dans une logique de prédation sur la richesse publique et privée, qui fait pression sur la commande publique, où il y a une forme d'extorsion, une violence diffuse. Alors, quand on va en vacances en Corse, on ne la voit pas, mais ce pouvoir parallèle, il existe. Et d'ailleurs, il a été dénoncé très récemment par des collectifs anti-mafia, qui sont issus de la société civile et qui ont réclamé à Gilles Simeoni, hein, justement, la mise en place d'un débat public qui n'a toujours pas été satisfaite. Et si vous voulez, ça pose un vrai question.
Est-ce
sur
que
aujourd'hui.
Certains réseaux mafieux ou illégaux pourraient pousser à l'indépendance ou à l'autonomie, justement, pour mieux avoir emprise et avoir main sur un business?
C'est clair qu'en Corse, la disparition ou le grand affaiblissement des contre-pouvoirs, celui qui était le clan qui a été décrié pour des raisons tout à fait légitimes, mais les clans traditionnels et même les nationalistes dans l'opposition. Les nationalistes, j'ai envie de dire, version publique et aussi version clandestine. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ces derniers. Et l'État, on en a parlé rapidement, mais l'État, il est plutôt dans une logique, on va dire depuis 15 ans, d'une logique plutôt d'indifférence, de mise à distance. Et si vous voulez, depuis la disparition et de ces deux contre-pouvoirs et la relative indifférence de l'État français, qui a autre chose à faire, des choses plus importantes, c'est quand même 350 000 personnes simplement la Corse, hein, sur un pays de 70 millions de personnes. C'est vrai que c'est un boulevard pour ce phénomène mafieux qui s'est enraciné dans la société corse depuis 25 ans.
Alors, l'une des revendications des autonomistes, c'est de faire la promotion de la langue corse. Je propose de voir ce reportage. Ça se passe dans une école bilingue, donc français-corse, immersive à Ponte Novo. C'est un sujet réalisé par France 3 Corse de Frédéric Danesi.
Dès leur plus jeune âge, ces enfants en classe de maternelle reçoivent un enseignement dispensé exclusivement en langue corse.
Alors, comment dit le soleil ?
Soleil.
Bon, après ?
Ouvred.
C'est quoi Ouvred ?
C'est le froid.
Bon.
L'arbre.
Bon.
L'école de Ponte Novo expérimente depuis 2 ans cette technique immersive, une démarche qui séduit également les parents, notamment ce père de famille.
Secondo me, è importantissimo di questa lingua si sia trasmandata. Scuola e in casa. Perché tutto il mondo usa mica dopo Balancos e in casa e facciamo la scuola ci partecipa.
C'est par cette école immersive en maternelle, puis bilingue au primaire, que la nouvelle inspectrice de l'éducation nationale a choisi de commencer sa tournée à l'occasion de la rentrée.
Alors, Cyril Graziani, vous qui êtes d'origine corse, on va voir si vous êtes un vrai corse. Vous avez compris ce qu'il a dit là, le père de famille, quand il s'exprime ?
Il avait un accent un peu particulier.
Alors, ma question est, est-ce que c'est folklorique la langue corse, ou est-ce que non, c'est en train de prendre et de s'enraciner ?
Non, ça a toujours existé, mais ça existe aussi dans certaines régions où
l'Alsacien se perd en Alsace.
L'Alsacien se perd, mais le Basque persiste, le Breton persiste, et les écoles immersives pour les enfants en bas âge, moi je trouve que ça a des vertus aussi, parce que dès le plus jeune âge, ça offre à l'enfant la capacité à jongler entre deux langues. Donc après, quand il va falloir apprendre des langues étrangères comme l'anglais ou l'allemand ou d'autres langues, ils auront ces réflexes et ces déclics qui seront beaucoup plus faciles parce qu'ils auront déjà jonglé quand ils étaient tout jeunes.
Fabrice Dalméda, ce matin dans Le Parisien, Manuel Valls, attention à ne pas remettre en cause l'unité de la nation française. Est-ce qu'à force de cultiver, d'encourager les particularismes locaux, on ne va pas se retrouver dans la situation des Espagnols qui, à force d'avoir dit « mais oui, mes petits chéris à Barcelone, parlez catalan », résultat, la Catalogne fait sécession.
Oui, mais c'est stratégique. Qui réclame la langue ? Les indépendantistes, les autonomistes, les nationalistes, c'est-à-dire ceux qui, au fond, veulent rompre d'une certaine manière avec le statu quo actuel du rapport avec la France. Donc pour eux, la langue, c'est aussi un moyen de figer un peuple. Ces deux notions sont liées. Hein. Quand tout le débat qu'on a sur la notion de peuple corse, c'est une question qu'on peut prendre comme un symbole, simplement écrire un mot dans un texte constitutionnel ou dans une reconnaissance, ou alors on peut le prendre dans un sens technique électoral. À partir du moment où on définit un peuple corse, ça veut dire qu'il y a des gens qui en sont et d'autres qui n'en sont pas. Donc le jour où on fait un vote d'autodétermination, ceux qui sont dans le peuple corse peuvent voter, les autres non. C'est le même débat que celui qu'on a eu pour figer le corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Qui est-ce qui avait le droit de voter ? Donc il a fallu, et c'est tout le débat qu'il y a eu dans les accords de Matignon et puis ensuite de Solferino, de savoir qui aurait le droit de voter à quel moment. Et vous savez très bien que si vous ou moi, nous décidons aujourd'hui d'aller nous installer en Nouvelle-Calédonie...
Vous parlez du peuple corse parce que c'est une autre des revendications, c'est de créer l'adoption de la notion d'un peuple corse.
Exactement. Qui est une notion, qui est une revendication forte des autonomistes. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement une revendication symbolique. C'est qu'à un moment donné, ça voudra dire que ceux qui sont, par exemple, dans l'île à un certain moment, pourront être considérés comme membres du peuple corse, que d'autres ne pourront pas. Donc ça risque... Enfin, c'est pas une notion à regarder simplement au sens symbolique.
Alors, qui est
ça
corse, va impliquer... Cyril Graziani, vous seriez corse, vous
Non, je suis français.
Voilà. Ah oui, non, mais jamais il y avait la notion peuple corse.
Il y a les gens du continent, non, c'est un autre cas.
Mais on peut se sentir, on peut avoir une identité régionaliste avec quelque chose de très très fort, ancré en soi, avec une volonté d'affirmer ça. Mais derrière, il faut aussi savoir, quand on est républicain, il faut aussi savoir...
Si légalement on crée la notion de peuple corse, puisque c'est l'une des revendications...
Mais ça n'est pas possible. Aujourd'hui, ça n'est pas possible.
Jacques Folloroux, ça n'est pas possible, parce que le peuple français est unique, c'est ça ? Non, c'est inscrit dans la Constitution.
Non, mais je veux dire, il y a deux choses. Moi, le débat que vous avez, là, me fait penser à une phrase de Marc Bloch, l'historien, qui dit « Mais je ne comprends pas, je peux très bien me sentir à la fois alsacien, français et européen. » Donc déjà, je pense qu'on peut construire juridiquement cette triple identité, voire plus. Et deuxièmement, moi, j'ai toujours tendance à voir la Corse comme un laboratoire. C'est un laboratoire démocratique, un laboratoire de la République sur le lien entre le citoyen et justement la représentation démocratique, et le lien entre le citoyen et la République et l'État. Et je pense que je pense que si on se fige sur des idéologies, sur une idéologie, une religion sacrée d'un État sacralisé, je veux dire monolithique,
c'est ça ou c'est rien.
On n'avancera pas. Et je pense que l'individu, que ce soit en Corse ou ailleurs, il a vocation aussi à prendre davantage de responsabilités et de pouvoir de décision sur sa vie individuelle et collective.
Alors on n'avancera pas. Vous avez raison de le dire. Ça fait 30 ans qu'on en parle du peuple, de la création de la notion de peuple corse. On a retrouvé ce journal télévisé du 22 mars 1991, présenté par Bruno Mazur. Le sujet, la création, faut-il, oui ou non, créer en France la notion d'un peuple corse? On regarde cet extrait du JT.
Les sénateurs ont adopté le projet de loi portant statut territorial de la Corse, mais après avoir considérablement modifié le texte déjà adopté par les députés, c'est ainsi que la majorité du Sénat a rejeté la notion de peuple corse. Que représente cette notion pour les premiers intéressés? Reportage de nos envoyés spéciaux Claude Samper et Luc Bachofen.
Le peuple corse. À San Lorenzo, petit village dans le centre de l'île, ces mots, source de tant de polémiques, prennent tout de suite leur sens.
Il dit que lui, il se sent corse parce qu'il parle corse et de toute façon, en français, il a du mal à s'exprimer. Et pour lui, c'est la Corse qui compte le plus. Ouais.
Pour les anciens du village, comme pour Dominique, jeune bergère à San Lorenzo, les débats animés au Sénat sur la notion de peuple corse paraissent très lointains. En dehors de toute bagarre politique entre partenaires d'une Corse française ou d'une Corse indépendante, ces mots, peuple corse, sont ici plutôt synonymes de tradition, de culture, de manière de vivre.
Moi, je vis ici, je travaille ici. Le fait d'être corse, ça me suffit, j'ai pas besoin d'être reconnue.
On a une certaine culture, on vit ici, on a une certaine manière de vivre. On parle corse, on écoute les vieux qui nous racontent leurs histoires. C'est surtout une qualité de vie.
Au village, la plupart des habitants souhaiteraient finalement que l'on dépasse cette polémique autour de la notion de peuple corse, et que l'on s'attache surtout à régler les problèmes de fond.
Pour le moment, il y a des problèmes qui doivent être résolus en Corse, et ce n'est pas en disant on vous appellera demain, on dira que vous êtes un peuple, je ne dis pas un peuple à part, mais vous êtes un peuple corse, que le problème corse sera résolu.
À San Lorenzo, comme dans la plupart des communes de l'île, le principal problème reste le départ des jeunes, la désertification du village. En un mot, la disparition du peuple corse.
Cyril Graziani, on a vu cette jeune femme qui était très à l'aise dans ses baskets, qui disait « mais moi je me sens corse », elle faisait son fromage au fond, elle gardait les traditions. On a ces revendications parce qu'on se sent agressé. Si les jeunes manifestent, c'est parce qu'ils sentent que leur corsitude, je ne sais pas si ça existe, serait menacée. Et que les traditions corses seraient en train de disparaître sous le poids. Moi, j'en sais rien, parce que justement, on ne ferait plus du fromage comme ça, mais tout serait importé du continent et on perdrait l'art de vivre à la Corse.
Et il faut faire aussi attention aux revendications des jeunes qui sont pour beaucoup, enfin, je pense que Jacques ne va pas me contredire, manipulées aussi par une frange qui reste un petit peu dans l'ombre et qui se satisfait de voir un petit peu les événements qui sont en train de se produire avec cette jeunesse qui monte au créneau et qui, je pense, très cyniquement...
On peut la manipuler et leur jouer, faites votre mai 68, vous allez voir, c'est rigolo, c'est ça que vous dites?
Non, c'est pas que c'est rigolo, c'est que je pense que beaucoup ont intérêt à ce qu'il y ait un drame et ce qu'il y ait un énorme problème pour que ça se propage encore plus et que l'incendie soit impossible à circonscrire là dans un délai très court.
C'est vrai qu'il y a... Alors, on rentre un peu dans la complexité politique corse, mais c'est vrai que derrière ces affrontements, il y a aussi des rapports de force et des rivalités entre les groupes autonomistes et nationalistes. Et c'est vrai que, je veux dire, quelques jours après l'agression d'Ivan Colonna en prison, il y a eu des rassemblements, notamment à Corté, on l'a vu dans un reportage au début, où les syndicats d'étudiants nationalistes étaient sur une revendication et des mots très durs contre Gilles Simeoni. Donc, rappelez-vous juste qu'il y a eu une échéance électorale majeure en 2021 qui a vu la fin de la présence nationaliste et d'une partie des autonomistes au pouvoir politique.
Indépendantistes.
Ouais. Indépendantistes. Non, mais il y a le PNC et Corsica Libera qui ont été éjectés de l'Assemblée et qu'aujourd'hui, c'est un moyen de renvoyer, la balle dans le camp de Simeone.
Cyril Graziani, le reportage en 91 se terminait par la jeunesse corse s'en va et finalement, c'est le peuple corse qui disparaît. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que les jeunes quittent toujours quittent massivement la Corse et au fond, en Corse, on a malheureusement une population vieillissante?
On revient sur un...
Justement, il y a une population qui reste de plus en plus, qui ne veut pas partir de la Corse. Dans les années 90, beaucoup partaient parce que justement, il n'y avait pas suffisamment de travail. Il y avait un problème d'emploi là-bas en Corse qui nécessitait d'aller voir aussi ailleurs. Et puis, c'est là où il y a eu un basculement. Il y avait une volonté de s'ouvrir, de sortir de l'île pour une partie de la jeunesse, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait de l'autre côté de la Méditerranée. Là, aujourd'hui, on est dans une situation où beaucoup, beaucoup de jeunes préfèrent rester, comme je vous le disais tout à l'heure, recroquevillé.
Ouais, mais il y a une petite évolution.
Juste qu'il y a un chômage jeune qui est important.
Ouais, mais il y a une petite évolution qui est importante parce que c'est, en effet, il y a eu ce mouvement-là où beaucoup d'étudiants, avec la création des universités, etc., de l'université, sont restés en Corse. Et on constate ces dernières années, mais c'est récent, de nouveau, les étudiants repartent sur le continent. Les gens qui ont les moyens de le faire envoient leurs enfants sur le continent. Qui ont les moyens de le faire. Mais c'est un mouvement. Si vous voulez, on revient sur un mouvement qui existait avant finalement la montée en puissance des nationalistes et des autonomistes.
Et l'une des difficultés pour la jeunesse corse, qui est encore plus criante en Corse que sur le continent, c'est de pouvoir se loger. Les prix du foncier ont explosé en Corse, en cause notamment les résidences secondaires, puisque nombre d'habitations sont aujourd'hui occupées par des continentaux qui ont une résidence secondaire en Corse, et ça a été encouragé par les pouvoirs publics, ce qui fait que les locaux ont beaucoup de mal à se loger. Vous voyez ce reportage de Marc-Antoine Renucci et Stéphane Lapera.
Des terrains de 1000 mètres carrés vendus 350 000 euros. Des villas dont la valeur peut facilement avoisiner le million d'euros. Ou encore des petits T2 loués 800 euros par mois. Dans de nombreuses communes de Corse, ces chiffres sont désormais devenus la norme. Comment en est-on arrivé là?
C'est ces quatre appartements.
Pour le maire de Pietrosée, Jean-Baptiste Luccioni, les explications sont finalement assez simples. La forte demande de personnes qui veulent s'installer sur ces territoires, le plus souvent en résidence secondaire, fait mécaniquement monter les prix. Et face à cela, les maires ont peu de marge de manœuvre.
On ne peut pas maîtriser la destination du logement. Logement aujourd'hui, dans le cadre d'un document d'urbanisme, carte communale ou plan local d'urbanisme, comme est dotée la commune de Pietrosée, on peut décider qu'une zone est à vocation pour faire du logement, mais on ne peut pas décider que c'est à vocation pour faire du logement permanent. Et donc la partie justement résidence secondaire qui contribue justement à faire monter le prix du foncier, à faire monter le prix des logements, quelque part il va falloir qu'on arrive à un moyen pour le réguler et pour que les locaux puissent accéder à ce parcours patrimonial.
Le constat est sans appel. La Corse est en même temps la région de France avec la plus grande croissance démographique, plus 20 230 habitants sur 6 ans, et celle qui compte le plus fort taux de résidence secondaire, 37,2% contre 8,9% pour la moyenne nationale. Dans certaines communes, ce chiffre dépasse même les 60, voire les 70%. Effet pervers de ce phénomène, ces logements peuvent parfois devenir davantage des investissements financiers que des réels lieux d'habitation. D'autant plus que jusqu'en 2019, les résidences secondaires faisaient partie des investissements éligibles au crédit d'impôt Corse. Elles en ont été exclues depuis, à la demande des députés nationalistes.
Cyril Graziani, c'est un vrai problème le logement et toutes ces résidences secondaires vides qui sont comme des fantômes en Corse?
Oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent que, dans le cadre d'un processus d'autonomisation de la Corse, Gilles Simeoni veut lutter contre la spéculation immobilière. Après, est-ce que nécessairement, si demain vous obtenez, si la Corse obtient l'autonomie, est-ce qu'elle réussira à lutter contre cette spéculation? Ça, j'ai des doutes aussi.
Alors, elle veut que seuls les Corses puissent acheter en Corse. Donc, créer un statut de résident, il faudrait vivre.
Mais ça n'est pas constitutionnel.
Ouais, mais alors justement, ouais, ça peut être l'un des enjeux. Ils ne sont pas loin de dire la Corse.
La comparaison avec l'outre-mer est intéressante. À Wallis et Futuna, seuls les Wallisiens et Futuniens peuvent être propriétaires de la terre. Donc ce n'est pas dans notre constitution, ouais, mais c'est dans notre république quand même. Et c'est vrai qu'ils posent cette question du foncier depuis les années 60. Et dans les années 80, ils l'ont même posé, j'allais dire, avec les fameuses nuits bleues, en faisant péter des villas, en cassant des chantiers, en occupant les maisons de tel.
C'est-à-dire que les continentaux qui faisaient construire une villa en Corse, elle était plastiquée dans la nuit.
Parce que pour eux, ce n'est pas la majorité des Corses. C'est ce mouvement, cette mouvance politique, en gros, dont on parle, autonomiste, nationaliste, FNLC, ils partent du principe qu'ils sont colonisés. Et qu'on en fait une petite colonie au soleil où des métropolitains viennent s'acheter une petite villa et empêchent en réalité les Corses d'avoir un développement endogène normal. Et en fait, même, ils pensent même qu'on les met sous dépendance en achetant les terrains à un prix relativement fort et en leur laissant un peu de capital dont ils n'auront pas finalement plus la jouissance plus tard. Et ça, c'est un aspect clé en fait en termes d'identité. Et la notion de peuple, elle va avec un État, c'est quoi ? Un État, c'est un peuple. C'est un territoire et c'est une culture spécifique. C'est ça qui forme une nation. Un État, un peuple, un territoire. C'est ça une nation. Eux, ils se repensent nation. Donc, ils veulent avoir la maîtrise de leur territoire.
Jacques Folleroux, même si alors, cette volonté justement de préserver un peu le littoral et de ne pas construire, comme vous l'avez dit, des résidences pour continentaux qui viendraient passer les vacances, ça, pour parler un petit peu de tourisme, ça a préservé le littoral corse qui est magnifique et qui n'a rien à voir avec la Playa del Sol qui a été complètement bétonnée. Non, mais...
c'est le grand argument des nationalistes et des autonomistes. C'est-à-dire qu'en effet, cette lutte par la violence a permis de préserver une île et d'en faire un joyau. Mais ce joyau touristique, en fait, il fait vivre l'île 2-3 mois. Après, le reste de l'année, ben, c'est compliqué. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Gilles Simeoni, à la tête de cette collectivité unique, à la tête de dont dépend, je crois, à peu près entre 5 et 6 000 emplois, avec les familles derrière, c'est très important. Et ça rappelle aussi que la Corse est une île. On parle tout à l'heure, je parlais de la richesse sur l'île, mais le terme est mal approprié, parce que c'est l'économie, elle est finalement extrêmement, extrêmement, extrêmement pauvre. Vous avez, et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, le seuil de pauvreté dans des grandes villes comme l'agglomération bastiaise est bien plus élevé que sur le continent. Et deuxièmement, la structuration sociale de la Corse, elle ressemble pas beaucoup à ce qu'on a sur le continent. Vous avez une relative, enfin, assez faible classe moyenne. Vous avez beaucoup de gens avec des très faibles revenus et en effet une petite couche de gens qui ont des gros revenus. Et donc, si on observe, d'ailleurs, chez un certain nombre de nationalistes qui ont viré sur l'affairisme, ou évidemment chez des affairistes purs et les voyous, s'il y a cette organisation de la prédation, c'est aussi parce qu'il y a peu d'argent sur l'île.
Alors, on ne peut parler de la Corse sans parler du plus célèbre des Corses, et vous me voyez venir, et du plus célèbre des Français, Napoléon. Napoléon, que représente-t-il d'ailleurs ? Quel lien entretient-il entre la Corse et le continent ? Et comment est-il perçu surtout ? En Corse, reportage à Ajaccio sur Caroline Sins, la Corse et Napoléon.
Il se dresse au-dessus de la ville. Difficile de l'ignorer. Napoléon Bonaparte, l'enfant du pays. Ajaccio lui rend hommage dans toutes ses rues. Son nom et son visage s'inscrivent partout. Même sur un fromage de chèvre. Mais quelle place occupe Napoléon dans le cœur des Corses ?
Pour moi, c'est un grand personnage, dans le monde entier. Il est aussi connu que Jésus.
C'est l'homme le plus célèbre de Corse. Hein.
Vous en êtes fier ?
Très fier, je suis bonapartiste aussi.
Tout le monde veut le voir. Hein. Tout le monde veut voir ses trucs. Tous les touristes ils viennent exprès pour ça. Hein.
Car Napoléon fait d'abord vendre. Dans cette boutique, sorte de petit musée dédié à son souvenir, son charisme s'exerce encore.
C'est un personnage assez fascinant parce qu'il représente une forme de puissance et il est quand même, par rapport à la France, c'est quand même un symbole assez fort.
Chacun veut sa photo avec sa statue en bronze, grandeur nature.
C'est sa taille, 1m68,8, mesuré le jour de sa mort à Sainte-Hélène, parent aux marques.
Dans cet autre magasin, Napoléon est devenu objet de mode. Une façon pour cette créatrice de se réapproprier cet Ajaccien devenu célèbre hors de Corse.
Il est à nous, mais il n'est pas complètement à nous. Alors ça, c'est une façon de se dire, voilà, c'est un gars de chez nous.
Ajaccio garde la trace de son enfant prodige. Napoléon naît le 15 août 1769 dans cette ruelle de la vieille ville. Sa maison natale est aujourd'hui le musée le plus visité de Corse. Et sur les places, des statues à son effigie. Impossible de l'oublier.
Le souvenir de Napoléon, de la grandeur de Napoléon, ça c'est cadeau pour toute la Corse et pour tous les Corses.
Alors Cyril Graziani, que représente-t-il Napoléon pour le Corse? On a entendu ce Corse dire, c'est un cadeau quoi.
Oui, c'est un cadeau, mais quand vous demandez à la frange nationaliste, autonomiste, s'il s'inspire de Napoléon aussi, c'est un héros pour eux, ils vous citeront un autre personnage clé de leur histoire, Pascal Paoli, qui est l'auteur, on le sait, de la première qui a permis la première constitution, la constitution américaine écrite, auteur de la première constitution, influence et référence
avant
la constitution américaine. Oui, qui a servi de référence aussi à la constitution américaine quelques années plus tard.
Avant la constitution américaine, les Corses avaient écrit leur propre constitution, et c'était Paoli.
Pascal Paoli, exactement.
En 1758.
1755.
Oui, 55.
C'est une première mondiale.
On parle de Napoléon, vous parlez de Paoli.
Non, mais on parle de Napoléon, parce que si vous parlez de Napoléon, à ceux dont
ils vont
parle
parler, Paoli. Fabrice d'Almeida, tout à l'heure on parlait de l'indépendance. Est-ce que les Français peuvent accepter, au fond, Napoléon, le Français le plus connu dans le monde et peut-être le personnage historique le plus connu au monde, perdre la Corse pour les Français? Est-ce que c'est pas comme perdre les châteaux de la Loire?
Ben peut-être même plus, et parce que en plus Napoléon, il faut dire, il fait l'itinéraire, j'allais dire, que beaucoup de Corses ont fait. Il y avait même j'ai le souvenir, il y a une berceuse corse qui dit « Dors mon enfant, qu'est-ce que ta maman te surveille et quand tu seras grand, tu deviendras sergent ». Parce que l'idée, c'est ça. L'idée pour beaucoup de Corses, c'était rentrer dans la fonction publique, venir sur le continent, passer le concours, rentrer dans l'armée, faire carrière. Et Napoléon, j'allais dire, c'est une voie qui a été classique pour eux. Donc il est aussi le symbole d'une autre Corse. Il y a beaucoup de Corses qui sont sur le continent, qui sont retraités à Paris. On a oublié que Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, était Corse, qui n'avait pas de tendresse particulière d'ailleurs pour les nationalistes. Dans l'entre-deux-guerres, Cap, le préfet de Paris, c'est un Corse. Donc il y a toute une histoire Corse de la France qu'on pourrait écrire. Donc Napoléon, effectivement, c'est la figure qui, pour les autonomistes, sera sans doute un repoussoir, d'autant plus qu'il s'est heurté à Pascal Paoli. Il l'a servi au début, mais ensuite Pascal Paoli l'a viré, ainsi que toute sa famille de Corse. Il faut se souvenir de ça. D'accord. C'est ce qui fait d'ailleurs que Napoléon va reprendre Manu Militari, la Corse, ensuite, et va réprimer les anciens paolistes, dont Pozzo di Borgo, qui sera obligé de se barrer en Russie, d'aller chez le tsar.
Mais Jacques Polleroux, quel paradoxe d'entendre cette jeune femme, du début du reportage, dire « je ne me sens pas française », alors que l'histoire de France, son cœur bat à Ajaccio, finalement. Enfin, il est né, c'est le berceau, quoi, on pourrait dire, de Napoléon. Je ne sais pas, comment est-ce qu'au fond, ils ne se sentent pas aussi très français de par Napoléon, les Corses?
Honnêtement, la référence à Napoléon, elle est quand même quasi inexistante quand on essaie de définir, de photographier la société corse aujourd'hui. Alors sur Ajaccio, c'est clairement une tête de gondole touristique.
D'accord. Mais c'est le Mont-Saint-Michel un peu.
Un tout petit peu, je pense que c'est un produit d'attraction touristique pour Ajaccio en plus, parce que le reste de la Corse, c'est très...
Et vous avez les touristes du monde entier qui viennent à...
Oui, vous avez des ferries qui viennent en effet voir la ville de naissance de Napoléon. Mais sur aujourd'hui, sur ce qu'est la Corse, sur ce que cette population attend, en revanche, il y a en effet un lien qui est beaucoup plus intime, qui va au-delà du folklore ou au-delà de la caricature entre la Corse et la France, et même mieux, et l'État. Parce que la proportion de Corses qui se sont investis, qui ont travaillé, passé leur vie au sein des services pour l'État, pour les services de l'État, il est bien plus important que bien d'autres régions françaises.
Cyril Graziani, en ce moment même, Gérald Darmanin est à Ajaccio pour parler autonomie. Est-ce que, si on met le doigt dans l'autonomie, est-ce qu'au bout, il n'y aura pas l'indépendance?
L'indépendance, on en est loin, mais là, ils vont mettre le doigt dans l'autonomie. Mais désormais, les interlocuteurs corses du gouvernement, qui ont beaucoup de revendications, vont demander la co-officialité de la langue corse, le statut de résident, le rapprochement des prisonniers, même si pour le commando Erignac,
c'est fait, hein.
ça va se faire là, ouais. Puisque leur statut de détenu particulièrement de signalé a été levé, donc ils peuvent être transférés dans une prison corse. Le risque pour le gouvernement, c'est qu'en ouvrant la porte de l'autonomie, toutes les revendications qui sont réclamées depuis des années se reviennent
et qu'ils reviennent à la charge. Et donc, raisons de manifester si elles ne sont pas satisfaites.
Ils les ont obtenues en 7 jours.
Ouais. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission sur ce dossier compliqué mais passionnant qu'est la Corse. Vous restez sur France Info. On se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée et à demain.